Le goût, c'est naturel et culturel.
Acide, salé.
Amer.
Sucré.
Ça pique.
Fumé.
Gras.
Pétillant.
Umami. Mmh.
Le goût n'est pas dans l'assiette, il est dans la tête.
Ça, c'est le sel que vous avez récolté quand ?
L'année dernière.
Bah, c'est incroyable, il y a 10 tonnes.
Sur environ, je sais pas, 3,50 m de haut ?
Ouais, bah du coup, des fois, il y a les petites avalanches. Donc régulièrement, maintenant, on prend la pelle et on essaie de reformer le tas.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Saveurs Savantes, la série savoureuse et salivante qui perce les secrets du goût en 9 épisodes. Épisode 4.
Salé.
Dans la famille des saveurs fondamentales, à côté du sucré, de l'acide, de l'amer et de l'umami, je demande le salé, un goût tellement prégnant et évident qu'il étiquette à lui seul tout un champ de la cuisine, les recettes salées, par opposition aux recettes sucrées. À l'origine du goût salé, il y a le sel, le fameux chlorure de sodium. C'est l'un des sujets de recherche d'un scientifique qui nous accompagne tout au long de cette série, Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Avec lui, nous explorerons le sel dans tous ses rôles en cuisine. Assaisonner les aliments, les faire dégorger, les conserver et même les cuire. Vous connaissez sûrement la technique de la cuisson en croûte de sel ? Je vais vous proposer une recette inratable pour sublimer de beaux maquereaux. Mais juste avant, je vous emmène récolter le sel de la façon la plus naturelle qui soit, au port des Salines. Tiens, tiens, c'est sur l'île d'Oléron. Et puis celle qui a récolté le sel dans la langue française, c'est notre linguiste Aurore Vincenti. Elle va nous montrer qu'il existe un paquet de mots salés dans le dictionnaire. Saveur savante, c'est un tiers de cuisine, un tiers de science, un tiers de culture. On mélange bien dans un shaker avec des morceaux de film, une pincée de littérature et on obtient un cocktail de savoir et de saveur à boire pendant tout l'été. Pour commencer, je vous propose un atelier avec quelques gastronomes en culotte courte puisqu'il paraît que la vérité sort toujours de la bouche des enfants.
Saveur savante. François-Régis Gaudry sur France Inter.
On goûte un premier ingrédient ? Qu'est-ce que ce pourrait être ?
C'est dur.
C'est blanc et gris et un petit peu transparent à certains endroits. Ça fait la taille un petit peu plus petit qu'une noisette.
On dirait une pierre.
Juste à la vision, on a un peu l'impression que c'est un petit caillou. Et vu comme ça, étant donné que c'est blanc, un peu transparent, je dirais que c'est du sel.
Alors vous allez le goûter et vous allez me dire ce que vous ressentez dans la bouche.
C'est salé.
J'aime pas trop.
Ouais, je trouve que c'est très 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 salé.
J'aime bien quand c'est salé, mais là c'est trop salé.
C'est dur à garder longtemps dans la bouche. C'est plutôt bon, mais c'est très fort.
Qu'est-ce que vous pensez que c'est à votre avis ?
Ça m'a fait directement, j'ai eu un blocage sur la mer et j'ai pensé directement à l'huître ou au produit de la mer en gros.
Ça ressemble à un caillou mais ça a goût de sel, peut-être une pierre de sel.
C'est une pierre de sel. C'est un caillou uniquement constitué de sel, à 99%. C'est du sel pur, mais pas du sel de la mer, c'est du sel de la terre. Vous aimez pas trop ?
Non.
Christophe Lavelle, biophysicien et chercheur spécialisé dans la gastronomie et l'alimentation.
Le sel, d'un point de vue chimique, c'est un assemblage d'ions. D'ions, c'est des molécules chargées, enfin c'est des atomes chargés. Quand ils s'assemblent entre eux, ça forme un composé qu'on appelle sel, qui peut, de manière générale, on parle des sels minéraux. Donc on sent bien que dedans, il va y avoir tout un tas de minéraux qu'on connaît plus ou moins de nom, du magnésium, du potassium, du calcium. Et en l'occurrence, donc, dans le langage courant, souvent, quand on dit sel, c'est sel de table. Et c'est donc le chlorure de sodium qu'on trouve dans nos salières couramment. Après, on peut aussi aller dans la salle de bain et on va trouver des sels de bain. Et c'est pareil, c'est des minéraux, mais qui vont avoir d'autres intérêts. Ou en cuisine, il faut quand même mentionner aussi un sel dont on parle beaucoup, c'est le sel nitrité, qui est aussi, en fait, du sel avant tout, donc un ACL, chlorure de sodium, dans lequel il y a aussi des sels de nitrite de sodium, en l'occurrence, qui sert à conserver les aliments. Donc, il y a des sels, et le principal, encore une fois, étant ce fameux chlorure de sodium, sel de table.
Le sel de cuisine, donc, chlorure de sodium, c'est le sel que l'on utilise pour saler nos plats, voilà. Qui est également présent dans la salière. Est-ce qu'il y a autre chose que du chlorure de sodium dans notre sel de cuisine ?
Alors oui, parce que justement tous les minéraux que j'ai mentionnés, ils jouent un rôle. Enfin, en fait, ce sont des contaminants du sel. Le sel n'est jamais totalement pur. Donc, quand on va notamment, plus il est raffiné justement, plus il est pur. Mais au départ, le sel gris, que ça soit du sel gemme ou du sel de mer, il est justement très riche en de nombreux autres sels, type effectivement chlorure de calcium, chlorure de magnésium. Il peut y avoir un peu d'iode, un peu de brome, tout un tas de choses, du fer, du zinc, qui vont donner éventuellement changer le goût. Donner des couleurs aussi au sel. Il y a tout un tas de sels plus ou moins justement chic, plus ou moins chers, qu'on peut acheter dans des belles épiceries et qui vont être vendeurs parce qu'ils vont être noirs, ils vont être roses, ils vont être bleus, et tout ça est souvent dû aux contaminations qu'ils présentent.
Et au-delà de la couleur, au-delà de la provenance éventuellement, au-delà du snobisme d'un sel de terroir, est-ce qu'ils ont un intérêt gustatif, ces sels qui viennent de l'Himalaya, d'Australie, de Guérande?
De manière générale, un sel justement non raffiné va être riche avant tout quand même en chlorure de sodium, mais donc aussi en quelques autres minéraux. Bah, le calcium comme le magnésium sont détectés et laissent des saveurs qui peuvent être perceptibles. Et puis la couleur, faut pas la négliger, parce qu'en fait ça influence le goût aussi d'une certaine manière. On le sait bien, c'est très connu des œnologues, mais psychologiquement, comme le goût c'est quand même beaucoup dans la tête, un sel rose, on va se préparer à une dégustation un peu particulière. Après, il y a aussi, peut y avoir des différences de texture dans les manières de produire ces sels, suivant une fois de plus si ce sont justement des sels extraits ou de différents types de marais salants, de cristallisation, les manières de faire éventuellement d'enrichir en faisant bouillir les préparations pour recristalliser derrière. Tout ça fait que par défaut, le chlorure de sodium va cristalliser dans un système qu'on appelle cubique, c'est-à-dire des cristaux cubiques qui, en se fractionnant, peuvent laisser des facettes ou voire des mini-pyramides, comme certains sels, type sel de Maldon. Et donc ça participe au goût, au sens que c'est
de Maldon,
la texture.
Vous évoquez un sel qui est extrait dans les côtes sud de l'Angleterre.
Voilà, exactement, et qui est très populaire pour justement cette forme pyramidale, oui, assez particulière des cristaux, qui font que c'est très... Aucun intérêt à mettre ça dans un bouillon, parce que ça sale comme n'importe quel sel, mais par contre, sur une présentée comme ça à l'assiette, sur un morceau de viande, de poisson, de légumes, ou tout ce qu'on veut, ça attire l'œil, et puis il y a un côté croustillant, et
c'est ça.
Donc c'est intéressant, bien sûr.
Donc cela veut dire que la texture du sel peut influencer son goût.
La texture influence son goût parce que rien que le fait que ça soit croustillant nous pousse à mastiquer, et mastiquer, ça va changer les perceptions des aliments. Mm-hmm. Et ensuite, la forme cristalline va aussi influencer la cinétique de fonte, finalement, de dissolution du sel dans notre salive. Donc tout ça va faire que le sel va être plus ou moins salé selon justement sa structure. D'ailleurs, on pourrait même fabriquer, et ça se fait, l'équivalent du sucre glace, un sel glace, et en fait, on peut pulvériser comme ça du sel en un sel très très fin qui, du coup, est très salé parce qu'immédiatement, il se dissous dans les papilles.
Gros sel, fleur de sel, la cristallisation du sel, dont dépendent son effet et son intensité en bouche, est le plus souvent l'œuvre de Dame Nature, aidée par cet artisan qu'on appelle saunier ou paludier. Sur l'île d'Oléron, on dit saunier. James Robert en est un, il exerce son métier dans un décor fabuleux, entre marais et cabanes, avec cette lumière singulière qui n'appartient qu'à Oléron.
Bienvenue sur l'île d'Oléron et sur le port des Salines.
S'il y avait une différence entre le métier de saunier et le métier de paludier?
Alors, il n'y en a pas. Et ici, en fin de compte, on a appelé les sauniers parce que dans le vieux français, le sel, on disait sau.
Il y a combien de sauniers sur l'île d'Oléron?
Alors, il y en a eu, fut une époque au siècle dernier, il y en avait énormément parce qu'il y avait 95 000 ou 100 000 hersonantes. Quand je dis hersonantes, c'est la terminaison du processus qui va faire qu'on va tirer du sel. Et il y en avait à peu près 100 000 à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 200, entre 200 et 300. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 7 à 8 sauniers sur Oléron. Là, ici, on a la Salorge, qui est le bâtiment commercial, avec le stockage du sel, et on a autour tous les marais salants, avec tout le système de fabrication du sel.
Vous me faites faire un peu le tour du proprio?
Alors voilà, on va rentrer dans la boutique. Alors c'est parti.
Je vous suis. Ah ouais, il y a un énorme tas de sel au fond de la boutique. Voilà. C'est pas pour rigoler.
Donc bonjour. Peut-être, voilà.
Vous êtes
Corinne, de la Salorge. Et là-bas, vous avez Émilie et Cléa.
On est en train d'ensacher le sel qui est récolté dans le marais, juste à côté.
Non mais décrivez-moi cette scène-là. Enfin, c'est une des premières fois de ma vie que je vois ça.
Bah, c'est incroyable, il y a 10 tonnes.
Sur environ, je sais pas, 3,50 m de haut.
Ouais, bah du coup, des fois, il y a des petites avalanches. Donc régulièrement, matin, on prend l'appel et on essaie de reformer le tas.
Ça, c'est le sel oui. Que vous avez récolté quand?
L'année dernière.
Voilà. On travaille toujours le sel avec un an de décalage, donc c'est toujours le sel de l'année passée en fait. Et donc là, avant de l'ensacher, on est obligé de trier tous les petits morceaux d'argile, les petites bêtes, parce qu'il y a des petites bêtes qui vont dedans, les petites mouches, voilà. Donc délicatement, on essaie de le trier.
Parce que là, il faut imaginer que vous avez du sel dans un bac.
Oui.
Et vous avez une pelle.
Oui, mais c'est un travail de petite fourmi, c'est comme ça.
Vous le saupoudrez, en fait?
Ouais.
Oui.
Oui. Mais on a tous, chacun, une technique différente. Nous, avec Émilie, on préfère vraiment donner des gros coups de pelle et voir ce qui ressort le plus. Mais je sais qu'il y a Antoine et Marie qui préfèrent vraiment faire ça très minutieusement. Donc on va, selon la méthode, on va plus ou moins vite.
Et là, si on devait trouver quelque chose?
C'est tout petit. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est de l'argile. Mais on peut trouver des plus gros bouts.
Ah, et là, c'est la poubelle. Et il y a effectivement des gros bouts au moins d'un centimètre.
Ouais, ça c'est une brindille de bois, il y a un peu de tout, il y a des fourmis.
Là, on parle de gros sel.
Oui,
il a une belle couleur jaune dorée, c'est une couleur atypique qu'on trouve que sur le port des Salines, en tout cas sur l'île d'Oléron. Donc c'est dû à la couleur de l'argile qui est plutôt jaune dorée, un peu beige, et qui donne cette belle couleur de sel.
C'est vrai que d'habitude il est gris, alors que là il est vraiment doré.
Et plus on va aller dans le nord de la France, plus le sel va être gris. Si vous allez à Guérande, vous allez voir que le sel est vraiment très gris. Oui, oui, il est très très joli. On est très fiers de notre sel, en fait. Hein.
Est-ce que la récolte a commencé?
On va aller essayer d'aller tirer un carré ensemble.
Carrément?
Ouais. Donc ça s'appelle une aire sonnante. Un marais salant, il y a quelque chose de très simple. Il faut imaginer un grand alambic à plat. C'est-à-dire qu'on a une réserve d'eau qui s'appelle le Jat. Cette réserve d'eau-là, en fin de compte, réceptionne une première livraison d'eau de l'Atlantique, d'accord? Donc c'est des chenaux qui les ramènent ici, ouais. Ça se stocke. Ça reste à peu près 15 jours là. Déposement des sédiments, l'eau s'éclaircit un petit peu, se purifie. L'Atlantique aujourd'hui, on est entre 30 et 33 grammes de sel dans un litre d'eau, et qu'à la terminaison, on doit être à au moins plus de 300 grammes. D'accord ? Donc il faut qu'on amène cette eau, qui est à 33%, de l'amener à 300. Donc du coup, on part sur le Jat, on passe dans les conches. Les conches, c'est un premier préchauffage, c'est encore des bassins. Et là, on va les faire rentrer dans tous les préchauffages qui se trouvent dans le marais. Et l'eau va avancer petit à petit dès l'instant qu'on lève ou qu'on bouge un tuyau, voilà.
Mais c'est une création humaine.
Sans machine. Donc les mecs, ils sont venus le faire, ceux qui l'ont fait au départ, ils l'ont fait à la main, quoi. Je veux dire, ça rigole pas. Alors maintenant, les nouveaux marais salants, ils y mettent quand même des pelleteuses, mais le final se fait tout à la main.
C'est quoi la saison pour récolter le sel?
Pour une très très bonne saison, on va se dire mi-juin à mi-septembre.
Donc là, j'arrive tout juste, c'est le début?
Là, c'est tout juste le début, on n'a pas tiré de gros sel encore, on a fait que de la flore volontairement.
On y va?
Ouais, c'est parti.
Est-ce que vous pouvez me décrire cet outil?
On va imaginer un très grand perche, ouais, c'est ça. Alors la cimousse, c'est pour ramasser le gros sel. Et là, Antoine, il a ce qu'on appelle la lousse à fleurs, qui fait comme un genre de passoire pour ramasser la fleur de sel.
Et ça fait quelle taille, cette cimousse?
5 mètres. Voilà.
Donc ici, c'est un paysage incroyable. Là, il faut quand même imaginer une espèce de mosaïque avec des bassins.
Oui, oui, oui. Alors, et on tire le sel sur deux aires sonnantes et on fait le tas au milieu. Alors là, par exemple, tu vois de la fleur. Tu la vois, la fleur? Là, tu peux y aller. Voilà, il va te faire voir comment on fait.
Comment on la distingue, la fleur? C'est ce qui est à la surface?
Voilà. Alors là, elle va être compliquée à ramasser. Pourquoi? Parce que là, on voit, elle est en formation. Donc c'est des millions de cristaux, en fin de compte, qui se sont créés et qui sont remontés à la surface. On va dire, pour faire simple, on va dire que le sel s'est formé au milieu du marais. D'accord. Au niveau des aires sonnantes, la fleur est montée parce qu'il y avait de l'oxygène dans ces petits grains. Elle s'est positionnée à la surface et il arrive parfois qu'on a l'impression que c'est une pellicule de glace. Et quand on la ramasse, on sent que ça se casse. Et c'est surprenant parce que tu entends le bruit. Clac, 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 clac. Alors que lui, le gros sel, il tombe au fond. Après, il ne bouge plus.
Et il y a une différence aussi de couleur.
Bien sûr, parce que la fleur reste blanche. Elle est en contact avec rien. Alors que le gros sel, il va prendre la couleur du sol.
En fait, là, il faut imaginer une espèce de râteau passoire un peu.
C'est...
Avec un support troué qui permet...
Écumoire.
C'est ça.
Un genre d'écumoire un peu plus...
Là, ça se casse comme du givre.
Ah bah oui, regarde. Toi, là, il y a une belle plaque après. Donc, c'est très long à ramasser.
C'est plus de travail, ce qui explique évidemment que, c'est, voilà, que ce soit un produit moins, plus onéreux.
Là, par contre, elle est hyper fine. T'as vu, Antoine?
Et cette fleur de sel, cette espèce de petite pellicule comme ça qui flotte à la surface du bassin, ça met combien de temps à se former?
Alors ça, la fleur de sel, tu peux la récolter quand le marais a démarré, toutes les 24 heures. Le gros sel, par contre, lui, c'est l'inverse. Tu le tires toutes les 48 heures. Voilà. Il y a une cristallisation qui est un peu plus longue.
Et donc là, vous faites le tour, en fait, et vous poussez le gros sel vers le centre.
Voilà. On va accompagner le sel sur le milieu.
Et là, on voit déjà au milieu du bassin un tas qui commence à se former.
Là, vous allez voir, vous allez être surpris. Hein. Là, qu'est-ce qui va se passer? En temps réel, on a tiré le sel. On a fait la pyramide. On le laisse 24 heures. Il s'est bien égoutté. On passe avec un petit véhicule avec le moins de bruit possible. Et puis on ramasse le sel et on l'amène dans une autre cabane pour le stocker. Et là, il va continuer son séchage.
Qu'est-ce qu'il y a marqué sur votre t-shirt?
Et tu peux le lire, je l'ai dans le dos. Mettez du sel dans votre vie. Voilà.
C'est un beau slogan.
Oui, et puis là, celui-là, je l'aime beaucoup, parce qu'en fin de compte...
La meilleure odeur...
C'est celle du pain. Et le meilleur goût, celui du sel. Voilà.
La mer... Natsu no hi... Nami wa odoru... Hikari no kage la mer... Utsuri yuku kosame ni lame hateshimo naku tsunagaru ai no yume to lame kiyorakana aozou Goran Nagisa no Ao i ashi o Goran Kamome no Asobo i o Lame Yasashii umi no ibuki Ai no uta wa lame Waga mune ni nagareru Lame Natsu no hi Nami wa hodoru Hikari no kage lamei Utsuri yuku kosame ni Lamei Hateshimo naku tsunagaru Ai no yume to lamei Kiyorakana aozora Goran Nagisa no aoi ashi o Goran Kamome no asobu yo Lame Umi no hibuki Ai no wata wa lame Waga mune ni
nagare.
La mer de Charles Trenet, interprétée en japonais par le fou chantant, en tournée dans l'archipel en 1959.
Saveur savante sur France Inter.
Christophe Lavelle, j'ai le sentiment qu'il y a souvent une confusion entre salé et iodé, sachant que ces deux adjectifs se rapportent à la mer.
Oui, alors la confusion, elle vient justement de cet élément commun. C'est-à-dire que la mer, effectivement, est riche en iode et en même temps riche en sel. Et ce qui fait que quand on se promène au bord de la mer, on a ces embruns qui sont des aérosols justement chargés en sel, donc on sent le côté salé, et on peut, par association d'idées, utiliser ce mot iodé, alors que l'iode n'a pas d'odeur en l'occurrence, une très très légère saveur un peu métallique, mais on peut pas la détecter à cette échelle-là. En fait, vraiment, ce qu'on appelle iodé, c'est des produits de dégradation du phytoplancton, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui n'ont rien à voir avec l'iode, qui sont du broméphénol, des méthylsulfures et autres, qui vont en fait nous donner cette association d'idées avec cette odeur marine. Le sel et l'iode sont deux minéraux qui n'ont pas d'odeur, les minéraux n'ont pas d'odeur, mais ils arrivent dans un élément qui lui comporte beaucoup d'autres molécules qui, elles, ont une odeur, et donc on fait une association avec cet iode et cette odeur qu'on ressent.
Donc pour résumer, lorsque l'on déguste un poisson ou un fruit de mer, on peut avoir une vraie sensation salée,
bien sûr,
car ces produits de la mer contiennent du sel. Mais quand on dit c'est iodé, on a tort, parce qu'a priori, il n'y a pas de saveur ou d'odeur de l'iode, c'est plutôt...
C'est vraiment une association.
C'est la faute au phytoplancton.
Voilà.
Salé et iodé, à ne pas confondre donc. S'il y a bien un ingrédient qui a mis son grain de sel dans notre langue française, eh bien c'est le sel, justement. On n'imagine pas le nombre de vocables du langage courant dérivés de ce mot en trois lettres. Sel, qui les a tous sur le bout de la langue, c'est notre linguiste Aurore Vincenti.
Salé.
Salé.
Le salé, comme le sucré, ce sont des mots dérivés de denrées, le sel et le sucre. Contrairement à l'amer et à l'acide, ces saveurs sont fermement rattachées à un ingrédient. Or, ce qu'on constate, c'est que ces denrées, le sucre et le sel, ont joué un rôle prédominant dans notre culture. Le sel, c'est son rôle d'assaisonnement, mais aussi et surtout de conservateur des aliments, qui en fait un ingrédient absolument essentiel. C'est aussi pour cela qu'il a pris une place si importante dans notre façon de caractériser une saveur et dans notre langue. Vous allez voir que le sel est partout en français, et notamment dans quantité de mots du quotidien. On part d'une racine toute bête. En latin, sel se dit et s'écrit sal, S-A-L. Alors un premier mot dérivé de cette racine, un mot qui témoigne de l'importance de cette denrée dans notre culture, c'est le mot salaire. À l'origine, le salaire, c'est une ration de sel, puis la somme donnée aux soldats pour acheter leur sel. D'où l'idée au sens large de rémunération. Posséder du sel a été un signe de richesse pendant plus d'un millénaire, en grande partie parce qu'il permettait de conserver les aliments. C'est de là aussi que vient la saumure, mot composé de salis et de muria, sel et eau salée, double dose. Après la saumure, toujours dans un registre culinaire, le domaine des salaisons, donc la famille des viandes salées, saucisses et saucissons. Et oui, salsiccia, en latin, saucisse signifie salé. La saucisse est étymologiquement une salée. Même logique pour le saucisson et pour le salami qui vient de l'italien. Et ce que vous avez peut-être déjà deviné, dans saucisse, on entend aussi sauce. Et la sauce, c'est à l'origine une eau salée. Alors heureusement que les amateurs de popote ont un peu affiné le concept de sauce, parce que l'eau de mer a ses limites. Mais cette histoire de sauce ne s'arrête pas là, puisque ce qu'on appelle communément sauce salade ou vinaigrette a donné son nom à la salade. Le mot salade n'a rien à voir avec la plante ou les herbes vertes potagères, mais renvoie à son assaisonnement. Elle est salée, la salade. Dans les dérivés les plus saugrenus, eh bien, il y a le mot saugrenu, lui-même, dont les racines salées existent encore mais se sont perdues dans la nature, et un qui devrait vous plaire, qui est le verbe saupoudrer. On a beau aussi saupoudrer du sucre, de la farine, des épices, à l'origine, on saupoudrait avant tout du sel, avec cette première syllabe saut, qu'on a dans saumure, saugrenu. Mais avec le temps, ce qu'il a emporté, c'était pas tant le sel que le fait de verser en poudre. Donc en somme, que ce soit le salaire, la salade, la sauce et la saucisse, ou bien le saupoudrage saugrenu, on voit bien que l'addition est salée, mais on s'y est habitué. Il n'y a presque plus de traces de sel apparentes dans la réalité que recouvrent ces mots. Le salé s'est installé dans la place et on ne se rend même plus compte, tellement on a intégré son omniprésence. Néanmoins, on comprend sa valeur quand, en plus d'être au cœur de toute chose, ou presque, il arrive comme un supplément d'âme. Vous voyez, il y a le sel et puis il y a la fleur de sel. Et au figuré, ce petit plus qu'on ajoute à une situation ou un discours, c'est le sel de la vie. Il doit pouvoir passer presque inaperçu. En revanche, quand cette saveur se montre trop présente, l'emploi de l'adjectif salé va traduire un excès. Si par exemple les prix sont salés, c'est pas facile à avaler. Vous commencez sans doute à comprendre qu'à chaque saveur son bon dosage et que pèse sur elle la menace de l'outrance. En tout cas, dans le spectre de la langue, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que mieux vaut être dans le défaut que dans l'excès.
Christophe Lavelle, vous nous confirmez bien que le sel fait saliver.
Tout à fait. Et ça stimule la salivation, tout comme l'acidité d'ailleurs aussi. Pour une autre raison, c'est-à-dire que le sel, on va avoir envie de le dissoudre. Mm-hmm. Donc quand il arrive sur la langue, effectivement, on fabrique de la salive pour rétablir un équilibre ionique et dissoudre ce sel dans un maximum de volume. Mm-hmm. Et puis, pour l'acide, c'est un autre mécanisme qui semblerait que ce serait plus pour se protéger de l'acide, pour diluer l'acide, pour réduire son effet attaquant. Mais on sait que, voilà, aujourd'hui, l'acide et sel, c'est deux choses qui nous font effectivement saliver.
Le sel fait saliver. Eh bien, salivons en compagnie de Margot Le Carpentier, l'un des talents qui secoue la scène cocktail derrière le comptoir de combat, son bar accroché sur les pentes de Belleville à Paris. Vous allez voir, le sel est en bonne place sur sa palette des goûts.
Salé.
Bah dans l'univers des cocktails, je dirais que le sel, c'est le bel inconnu en fait. Il est là et il y en a besoin, comme on met du sucre dans le ketchup, et ben on met du sel dans les cocktails. Ça va vraiment équilibrer, ça va faire saliver déjà. On n'a pas envie d'avoir que du sucre dans un cocktail. Tout est dans l'équilibre, mais en fait, même un cocktail super équilibré, si on lui rajoute une pointe de sel, vraiment, il va y avoir ce côté comme les chips, quoi. On y revient, on en veut encore.
Vous montrez comment on peut utiliser de différentes façons, justement, ce sel dans un cocktail.
J'y vais. Ça s'appelle l'impécapre. Donc, c'est un cocktail infusé à la capre. Les petites capres, on les rince rapidement pour pas qu'elles soient trop salées non plus. Et après, on les frotte dans la tequila et on laisse poser 24 à 48 heures.
Quelle proportion à peu près ?
En proportion, on est autour de 20 grammes pour 70 centilitres. Après, pour les infusions, j'ai toujours tendance à conseiller de commencer petit, goûter régulièrement et trouver surtout le bon équilibre suivant vos goûts, parce que mon équilibre à moi ne sera pas forcément celui de tout le monde. Donc commencez par exemple avec 15 grammes, montez peut-être à 20 grammes, commencez à goûter au bout de 24 heures, peut-être même 12, 24, 36, 48.
Et quand vous dites frotter des capres dans la tequila, comment on fait, comment on frotte des capres?
Je sais que les gens n'ont pas forcément envie de faire une bouteille entière. Faites une demi-bouteille de tequila, vous la mettez dans un saladier, vous mettez vos 20 grammes ou vos 10 grammes de capre, et après, vous prenez une maryse, et en fait, vous les frottez gentiment. On ne veut pas les réduire en bouillie, mais on veut vraiment que les petits pétales, les petites feuilles de chaque capre soient un petit peu écrasées, ou en tout cas qu'elles s'ouvrent pour mieux infuser.
C'est parti ?
C'est parti. Alors, on prend un highball. C'est, en français, on appelle ça plutôt un tube. C'est les longs verres, les verres à soda. On commence avec 15 ml de tequila infusé au capre. Alors, c'est un cocktail qui est tout dans l'équilibre, hein, parce que ça va être que des petites quantités. Ensuite, 10 ml de suprême de noix.
Ou la liqueur de noix dans le placard de la grand-mère.
Exactement, ça marche tout aussi bien. Sinon, même si vous avez du vin de noix, je suis sûre que ça fonctionnera. Si c'est du vin de noix, mettez-en plutôt 15 à 20 ml. Ensuite, pour le vermouth blanc, je travaille avec Dolin de Chambéry. 10 ml.
Un vermouth blanc made in France.
C'est ça. Citron, 10 ml, toujours. Jus de citron jaune, fraîchement pressé, c'est toujours mieux. Et ensuite, 30 ml de suze ou de gentiane. Si vous avez du salaire, ça fonctionne très bien aussi. Et là, la glace pilée. J'aime beaucoup les cocktails sur glace pilée. J'aime beaucoup l'évolution qu'apporte la dilution. Un cocktail à sa première gorgée aura un goût complètement différent à la dernière. Et donc, ce cocktail-là, il est vraiment emblématique de cette méthode. On remplit le verre. On en met jusqu'à ce que le cocktail ne submerge plus la glace. Il faut qu'il y ait plus de glace que de cocktail. On n'hésite pas à mi-chemin à faire des allers-retours avec la cuillère.
Waouh, couleur incroyable.
La couleur est dingo. Complètement transparent, à la fois un petit peu vieux jaune, un peu moutarde.
Avec presque des reflets un peu bruns.
Je le goûte avant de le servir quand même. Ouais, moi ça, je trouve ça mais extra.
Incroyable.
C'est étonnant.
Il y a un côté tannique.
Exactement.
Et en même temps, c'est très frais. C'est incroyable. Très singulier. Il y a un côté un peu café.
Exactement. Racine, chicorée presque. Moi, ça m'évoque presque la chicorée. Un peu cette salade cuite.
Avec une petite trame saline.
Exactement, ouais. Oui, là, on est vraiment dans le cocktail apéritif. Début de soirée. Puis moi, c'est celui que je pourrais boire en pichet, en terrasse, quoi.
L'impeccable.
L'impeccable, il est impeccable.
Il y a comme un jeu de mots alors.
Ouais, je crois, ouais.
Saveur savante sur France Inter.
Christophe Lavelle, après avoir mangé beaucoup de chips à l'apéritif, souvent on a très soif. Pourquoi manger salé donne soif?
Alors pour la bonne raison que quand le corps reçoit plein de sel, et donc par définition trop de sel, il n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il va d'une part le diluer un peu, donc augmenter le volume sanguin, et puis faire fonctionner les reins pour dégager tout ça dans l'urine. Et tout ça, ça fait un afflux d'eau en fait qui va quitter les cellules pour aller justement rejoindre ce flux sanguin et les reins. Et donc c'est de l'eau qui quitte les cellules, et donc le corps en même temps perçoit qu'il y a de l'eau qui a quitté les cellules et qu'il va y avoir un manque d'eau. Donc on a soif et on a directement envie de boire dans la foulée.
Christophe Lavelle, je rappelle que vous êtes biophysicien au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle, mais vous êtes aussi gastronome, alors expliquez-nous comment le sel cohabite, interagit avec les autres saveurs.
Typiquement, on sait que le sel, justement, il va avoir tendance à renforcer l'acidité, par exemple.
Oui.
Par contre, il a plutôt tendance à diminuer l'amertume.
Mm-hmm.
Pour le sucre, c'est compliqué parce que à très faible dose, il a tendance à renforcer la sucrosité, mais à haute concentration, il aurait plutôt tendance à l'atténuer.
Mm-hmm.
Donc, ouais, c'est pour ça que dire en matière de physiologie du goût, c'est malheureusement jamais simple.
C'est complexe, mais justement, vous évoquez la relation entre le salé et le sucré. Beaucoup de grands noms de la pâtisserie rehaussent leur création sucrée de la petite pointe de sel au prétexte que ça exhauste le goût en quelque sorte de cette création sucrée. Donc là, la petite pointe de sel ou la petite pointe de sel qu'on a dans la tablette de chocolat par exemple.
Oui, alors exhausteur de goût, c'est quelque chose qui est assez controversé.
Le sel ne serait pas un exhausteur de goût?
C'est difficile de le dire comme ça. C'est-à-dire exhausteur de goût, on aurait justement tendance à dire que ça renforce toutes les saveurs. Or, on vient de voir que c'est pas le cas. Il y en a que ça atténue, d'autres que ça renforce. Et à l'échelle physiologique, c'est compliqué à analyser parce que le sel, on le détecte tout de suite. Donc là encore, il y a un biais énorme, c'est que le sel, on le détecte et on l'apprécie parce que d'un point de vue évolutif, on a besoin de ces ions pour avoir l'équilibre ionique et physiologique, notamment l'équilibre sanguin.
Donc c'est une saveur flatteuse.
Donc c'est une saveur flatteuse, on la détecte, on la sent, on aime ça.
Mm-hmm.
Donc après, de là être capable dans sa tête d'isoler, oui, effectivement, je sens mieux le cacao avec la fleur de sel que sans la fleur de sel, c'est très compliqué. Et d'autant plus qu'aussi, et on va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, ces petits cristaux de sel qu'on peut utiliser en pâtisserie, ben, là encore, ils forcent la salivation, ils forcent la mastication, qui sont deux phénomènes qui vont aussi changer finalement la perception du goût. Donc il y a beaucoup de choses en jeu en même temps. Donc dire que c'est un exhausteur de goût, c'est un peu simpliste. Voilà, ça apporte une saveur très marquée qui a des synergies plus ou moins complexes avec les autres saveurs.
Le sel est aujourd'hui un ingrédient banal, voire envahissant en cuisine. Au pays de Giono, non loin de Manosque, il constituait pourtant au début des années 30 un luxe. Le luxe d'une petite pointe de sel sur une tartine de pain à l'huile d'olive, qui peut même, à la façon d'une Madeleine de Proust du pauvre, déclencher un torrent d'émotions. Jean Giono raconte cette troublante expérience dans son récit Manosque des plateaux. C'est un texte interprété par Emmanuel Gori.
Je ne pourrai jamais retrouver le vrai visage de ma terre. Cet œil pur des enfants, je ne l'ai plus. Quand j'étais tout petit, je jouais, puis j'avais faim. Ma mère taillait alors une plate tartine de pain. Elle la saupoudrait de sel, elle l'arrosait d'huile par un large huit de la burette penchée. Elle me disait « Mange ». Ce sel, il me suffisait de humer le vent odysséen. Il était là, avec l'odeur de la mer. Ce pain, cette huile, les voilà tout autour dans ces champs de blé vert dessous les oliviers. Ainsi s'est aiguisée de longue habitude l'ardente faim de mon cœur. Jamais assez de ce pain. Jamais assez de ce sel, de cette huile, ma mère. Avec mes joies, avec mes peines, j'ai mâché des quignons de ma terre, et maintenant la ligne où se fait le juste départ, la ligne au-delà de laquelle je cesse d'être moi pour devenir houle ondulée des collines, la ligne est cachée sous la frondaison de mes veines et de mes artères, dans les branchages de mes muscles, dans l'herbe de mon sang, dans ce grand sang vert qui bout sous la toison des olivets et sous le poil de ma poitrine.
Jean Giono, Manosque des Plateaux, 1930.
Le sel comme supplément d'âme sur une tartine paysanne, mais le sel aussi comme agent de cuisson. Je veux parler évidemment de la fameuse technique de la croûte de sel. Pour cuire de splendides maquereaux, je m'invite chez un gastronome qui a la double casquette d'ingénieur et de cuisinier.
Moi, c'est Stéphane Lagorce. Je suis donc l'auteur du Grand Précis des Cuissons. Et puis, on va faire une jolie recette de croûte de sel maintenant. Là. Alors, les voilà.
Ah ouais, des beaux spécimens quand même.
Ah ben là, c'est des maquereaux. Vous voyez, chacun d'eux fait 500-600 grammes. Hein. C'est des belles bêtes hein, au garrot, là. Vous voyez un peu. Alors, il faut les vider, bien entendu, hein, comme n'importe quelle cuisson. C'est ce qu'on va faire en premier. Et après, il n'y a rien à faire. Faut pas écailler, faut pas enlever les nageoires, faut rien faire, faut tout laisser comme ça. On enlève les viscères et puis c'est tout. Surtout, on ne rince pas. On rince jamais un poisson. On coupe tout le long, ça vient tout seul. On enlève les viscères. Maintenant, quand ça c'est fait, pour le sel, là, comme c'est des petits poissons qui font, je vous dis, 500-600 grammes, on va ajouter un petit peu de blanc d'œuf qui ne change rien à la cuisson, absolument rien du tout, qui va juste rigidifier la coque sans qu'elle ne s'effrite complètement et qu'on mette du sel partout. C'est juste ça, hein. J'ai pris du gros sel gris non raffiné. Il faut quand même prendre des choses d'une bonne qualité.
Sel de Guérande, la Belle Rouge.
C'est très bien. Il faut que le poisson soit enrobé, encapsulé dans le sel. Donc combien? Ça dépend de la taille des poissons, ça dépend de la taille du plat. C'est vraiment, il faut le faire à l'œil. Je vais y mettre alors donc deux petits blancs dedans là. Le premier, le second. Et voilà, hop. Je mets ça dedans, sans autre cérémonie, et puis à la mano ou avec une cuillère en bois, comme on veut, et bien on brasse tout ça. Comme de toute façon le gros sel est déjà humide, franchement ça fait pas beaucoup de différence hein, quand on mélange. On va mettre la couche du bas, c'est-à-dire qu'en fait on commence par tapisser le moule que vous avez choisi. J'en mets là, je sais qu'il y a à peu près voilà, 1,5 cm, 2 cm au fond, comme ça là, ça suffit, très bien. Comme ça, je prends les poissons. Je vais les mettre dessus. Alors, détail important. À partir du moment où vous mettez les poissons dans le sel, la cuisson doit démarrer dans les 5 minutes. Hein. Parce que si vous les laissez à cru traîner dans le sel, vous allez faire un tour là, vous allez retrouver des maquereaux ultra salés, quasiment immangeables. Hein. Parce que quand c'est cru, le sel va se transférer dans le poisson. Mais dès que ça commence à chauffer, ça s'arrête. Donc, pas de report du poisson dans le sel. Sinon, vous faites du poisson salé, quoi. C'est autre chose.
On fait une salaison de poisson.
Voilà, exactement. Donc, je mets le laurier là, comme ça me chante, là.
Thym, laurier, romarin.
Voilà, on va peut-être poivrer un peu quand même. Bon, alors moi j'ai mis ces herbes là, mais on peut en mettre, ne pas en mettre. Et alors ensuite, donc avec le gros sel qui me reste, ben, vous voyez, hein, je les vigne pas, hein, je les recouvre. Donc voilà, il faut vraiment les enfouir hein, complètement. Donc j'ai mis un four à 210 degrés. Et c'est parti, je pense qu'on en a pour 25 minutes à peu près là.
Est-ce qu'il y aurait une règle à donner en termes de temps de cuisson pour une croûte de sel quand on cuit un poisson?
Pour des bêtes voilà, qui font entre 5 et 600, entre 25 et 30 minutes, plus 5 à 10 minutes d'attente hors du four, parce qu'en fait c'est une cuisson qui procède aussi par inertie, c'est-à-dire qu'en fait on emmagasine de la chaleur dans le sel, pour que la chaleur emmagasinée dans le sel en fait progresse vers le poisson et achève la cuisson. C'est vraiment ce qu'on va faire. C'est une cuisson qui se fait en conduction pure. C'est-à-dire qu'en fait, la chaleur, en fait, ça fait donc un front de chaleur qui progresse dans le poisson de manière très assez lente, régulière, qui provoque ce qu'on appelle une coagulation très progressive. Et c'est ça qui fait que la texture du poisson cuit en croûte de sel a cette texture si inimitable, j'allais dire. C'est vrai qu'on peut pas imiter ça autrement, quoi.
C'est-à-dire que ça reste extrêmement moelleux, juteux.
Oui, ça reste assez moelleux, ça reste assez juteux. Je trouve que ça convient parfaitement avec notamment pour les poissons semi-gras ou gras. Là, il faut vraiment, pour se faire plaisir, soit on prend des poissons sauvages, comme le maquereau qu'on a pris là, comme le chinchard aussi, c'est super bon, de la dorade sauvage, le mulet, c'est un poisson super bon. De ce point de vue-là, la croûte de sel, elle a l'intérêt d'aller magnifier des poissons un petit peu roturiers, quoi, j'allais dire, alors que...
Ah !
Bon, on a nos 25 minutes, allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Alors voilà. Ah, ça tient, hein. Faut que je pense que je vais me cramer.
C'est carrément dur.
Ah oui, non mais c'est solide, là, il n'y a pas de doute, hein. C'est le sel qui crépite, hein, c'est marrant. Hein. C'est la flotte là qui s'évapore et qui fait que ça crisse comme ça là. Alors voilà, donc là, on va à nouveau les oublier pendant 10 minutes. De toute façon, ça sert à rien de le casser maintenant, c'est trop chaud, on va se brûler. Et on casse ça dans 5-10 minutes.
Ah, ça y est, ça commence à baisser un peu en température. Hein.
Voilà, donc on peut poser la main dessus. Alors, je prends ma cuillère.
Ah.
Donc là, je viens de casser la croûte, vous l'avez bien entendu.
Il faut le désincarcérer.
Ouais, c'est vraiment le mot. Voilà,
ah, joli.
J'ai le poisson sur la planche. On voit qu'il y a plein de petits grains de sel qui sont dessus. Alors si on les garde, franchement là, ça va être trop salé, on est d'accord. Hein. Donc, là, ce qu'on fait, on prend un couteau là. On les gratte un peu comme ça là. Puis on peut aussi enlever la peau si on n'aime pas ou pas d'ailleurs. Regardez ça comme c'est bien cuit là.
Waouh.
Vous voyez, c'est humide. C'est pas du tout sec là. On voit bien là. Ben voilà, il n'y a plus qu'à goûter. Hein.
On se met un coup de fourchette.
Allez, c'est parti. Alors.
Oh.
Franchement, ça le fait. Hein.
Oh, cette texture de chair.
Ouais. Si vous cuisez à la poêle, vous n'avez pas ça. Si vous cuisez au barbecue, ça n'a pas ça. Si vous cuisez en papillote, c'est pas comme ça. Si vous cuisez au four tout seul, c'est sec. Non, c'est parce que la croûte de sel, comme je vous le disais tout à l'heure, fait qu'on n'a plus que de la conduction pure. Et ça vous donne cette texture-là qui ne ressemble à aucune autre.
Recette révélation. Non, vraiment, hein.
Ben, tant mieux, je suis ravi. J'ai pas fait grand-chose.
Il n'a pas fait grand-chose, notre ami Stéphane Lagorce. Bah, juste une parfaite recette de maquereau en croûte de sel, qui l'accompagne d'ailleurs d'une sauce vierge tonique et acidulée dont je vous livre le secret. Un quart d'oignon rouge finement haché, mélangé dans un bol avec 3 à 4 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 4 à 5 cuillères à soupe d'huile de colza, du sel, du poivre, une pincée de piment d'Espelette et beaucoup de ciboulette ciselée. Bon appétit.
Saveur savante.
Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas. Sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Não tem tempo nem estação. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão, mas você não vê.
Vejo passar de Dom La Nena, picoré sur notre playlist de l'été.
Saveur savante. François Régis Gaudry sur France Inter.
À présent, Christophe Lavelle, quelques certitudes culinaires sur lesquelles on aimerait votre avis de scientifique. On dit par exemple que pour cuire des légumes dans l'eau bouillante, il faut saler l'eau. C'est d'ailleurs eau bouillante plus sel, ce que les cuisiniers appellent...
une chauffante. Hein.
Bravo. Le sel empêcherait les sels minéraux de s'échapper dans l'eau. Et le sel aiderait en plus à fixer la couleur des légumes verts, vrai ou faux?
D'un point de vue purement chimique... si je fais cuire mes végétaux dans de l'eau salée, dans cette idée de limiter la perte en minéraux, c'est raisonnable, puisque je vais lutter contre le phénomène d'osmose. C'est-à-dire que s'il y a une forte différence entre l'extérieur et l'intérieur, dans mon légume, j'ai de l'eau et des minéraux. À l'extérieur, si j'ai de l'eau sans minéraux, je peux me dire « Ah, les minéraux vont avoir tendance à aller vers l'extérieur ». Donc c'est raisonnable. Dans les chiffres, la différence, elle est tellement minime, on s'en fiche complètement.
Donc, vous allez décevoir pas mal de chefs.
Oui. Hein. Alors après, ça reste intéressant de saler quand même l'eau de cuisson parce que ça sale le végétal et
d'accord.
Et de manière éventuellement,
mais ça fixe pas forcément sa couleur.
Ça fixe pas du tout sa couleur.
Il y a une autre stratégie qui consiste à mettre une petite cuillère à café de bicarbonate de sodium. Alors, aussi, on parle d'un sel.
Oui, tout à fait.
Et là, c'est intéressant pour fixer, par exemple, la couleur des haricots verts.
Là, ça marche très bien. Donc là, effectivement, il y a un vrai effet en fait de pH, tout simplement. Et là, c'est parfaitement justifié. Attention, ce cependant, le bicarbonate de soude, il faut vraiment en mettre un tout petit peu, parce qu'il va aussi ramollir, tendance à ramollir les parois des végétaux.
Donc on y va mollo.
Donc on y va mollo. Par contre, c'est très intéressant pour les légumineuses, qui sont très longues à cuire. Et donc là, le bicarbonate, il est intéressant parce qu'il permet de gagner du temps.
Question autour du steak, de la viande. Quand on veut la faire cuire, est-ce qu'on la sale avant ou après cuisson? Là aussi, il y a un énorme débat sur lequel aucun chef n'a jamais tranché.
Alors, si on se préoccupe de ça au moment de la cuire, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on sale juste avant, pendant ou après la cuisson, ça va rien changer.
Ah bon,
la cinétique de la cinétique chimique n'a pas de rôle à jouer là-dessus.
Donc on se dispute pour rien dans le milieu de la gastronomie.
Donc on se dispute plus rien si j'ai décidé de saler au moment. Par contre, je peux avoir une autre stratégie qui est de saler bien avant.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire la veille ou l'avant-veille même. Je vais prendre mon entrecôte ou mon rôti, je vais le saler, frotter un peu la surface, l'emballer et le laisser tranquillement au frigo pour le lendemain où je vais décider de le cuire. Là, ça a un intérêt parce que du coup, on laisse le temps au sel justement de pénétrer.
Oui.
C'est-à-dire qu'au début, il y a un peu d'eau qui va sortir par osmose. L'eau va essayer de diluer le sel de surface. On se dit, merde, je perds du jus. Mais déjà, c'est négligeable. Mais ensuite, après, quand on laisse le temps faire, l'eau repénètre dans la viande parce que finalement, le sel finit par rentrer. Il emporte l'eau avec elle. Et in fine, on a un sel qui va pénétrer jusqu'au cœur de la viande et qui va avoir un rôle de rétenteur d'eau. Et c'est bien pour ça que l'industrie met d'ailleurs beaucoup de sel aussi dans ses plats préparés, parce que ça permet de mettre plus d'eau. Mais là, c'est pour la bonne cause. Parce que du coup, la viande, après, quand on va la cuire, elle va beaucoup plus garder justement son jus, elle va être plus juteuse in fine. Et ça, ça se mesure très bien. C'est des TP qu'on fait souvent à l'école hôtelière, parce que c'est justement un TP qui marche très bien. C'est-à-dire qu'on selle 24 heures avant et on fait les cuissons et on compare avec les mêmes quantités de sel ajoutées juste au moment où ajoutées la veille. Et on a des différences de 10-15% en termes de maintien de juteusité en plus, quoi.
Est-ce que la viande est salée à cœur dans ce cas-là?
La viande est salée, alors ça dépend de ce qu'on appelle le cœur, c'est que ça pénètre très lentement, c'est quelques millimètres par heure. Donc si c'est un rôti, vraiment au cœur du rôti, sans doute pas, mais sur une entrecôte, oui, toute l'entrecôte est salée.
Donc vous encouragez nos auditeurs et nos auditrices à saler leur grillade, par exemple, la veille?
Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait qu'en fait quand on fait une marinade. Quand on fait une marinade, c'est souvent une saumure avec des épices, et on le fait longtemps à l'avance, et ça tombe bien, parce que automatiquement on a cet effet, justement.
Dans le même genre, on dit souvent que le sel sur la peau du poulet rôti qu'on s'apprête à enfourner va rendre cette peau plus croustillante.
Alors ça, par contre, c'est une blague, ouais. C'est une blague parce que c'est basé sur une idée, une fois de plus, qui est censée, c'est-à-dire, le sel, ça capte l'eau, et donc, si je veux du croustillant, il faut que je capte l'eau. Sauf qu'une fois de plus, le petit bout de sel qu'on va mettre, il va rien capter du tout, et surtout qu'on le met sur une peau de poulet, c'est gras. Et le sel, il pénètre absolument pas dans la matière grasse. On peut s'amuser à mettre des cristaux de sel dans sa bouteille d'huile d'olive, ça fera rien du tout, puisque un siècle plus tard, il sera toujours là, le sel. Hein.
Donc, qu'est-ce que les chefs cuisiniers racontent comme foutaise?
Oui, il faut se méfier, effectivement. Mais c'est d'ailleurs beaucoup de sujets intéressants pour les chimistes quand on lit les livres de cuisine.
Vous validez en revanche la stratégie qui consiste à saler des aubergines ou des tomates pour les faire, comme on dit, dégorger?
Mais là oui, parce que là on voit tout de suite l'effet, d'ailleurs qu'on voit aussi avec du sucre, d'ailleurs c'est le fameux osmose dont on parle tout le temps, qui est de se dire, si je mets du sel, l'eau du fruit ou du légume va avoir tendance à sortir pour aller diluer le sel, et donc on va bien entendu dégorger comme ça tout ce qu'on veut, que ce soit des aliments sucrés ou salés, et ça marche très bien ça, oui.
Et enfin, dernière question, Christophe Lavelle, dites-nous un mot du rôle du sel comme agent conservateur des aliments. Je veux parler des salaisons, les charcuteries par exemple, mais également le rôle du sel dans la lactofermentation.
D'une part, en termes de conservation, d'un point de vue chimique, le sel, il fait ce qu'on appelle, il diminue l'activité de l'eau. C'est-à-dire que comme justement il se dissout dans l'eau, d'une certaine manière, il va s'accaparer l'eau. Et donc une eau qui n'est plus disponible pour justement les micro-organismes éventuellement pathogènes.
Donc peu de risque de pourrissement, en clair.
Donc il y a beaucoup moins de risque de pourrissement. Plus il y a de sel, moins il y a de risque de pourrissement. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on conserve très bien des aliments dans la saumure, alors que c'est plein d'eau, mais c'est une eau très salée, donc il n'y a pas de risque de développement bactérien dans ce type de milieu. Et même à très forte concentration, on peut déclencher ce qu'on appelle une lyse cellulaire, c'est que les cellules pathogènes explosent, les bactéries explosent tellement il y a de sel autour d'elles, et donc ça les tue radicalement, évidemment. Ça c'est le phénomène de salaison de manière générale. Après, dans la lactofermentation, c'est un peu différent. On va effectivement mettre du sel au départ, 1, 2, 3% en général, maximum. Et là, ça va être pour créer un écosystème favorable aux bonnes bactéries. Ce qu'on appelle les bonnes bactéries, c'est en l'occurrence les bactéries lactiques qui sont présentes, en même temps que les bactéries pathogènes. Tout le monde est présent en même temps. Et ce qu'on veut faire quand on fait une fermentation, on veut justement éviter la pourriture. Et donc, pour ça, il y a une course entre les différentes bactéries. Et donc, on va mettre dans les meilleures conditions possibles celles qu'on veut faire faire gagner. Et les lactos, en l'occurrence les bactéries lactiques, sont très résistantes au sel, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc on va forcer en sel et on va comme ça sélectionner et on va avoir une culture de bactéries lactiques qui vont fabriquer, comme leur nom l'indique, de l'acide lactique qui lui va terminer, achever de tuer les éventuels pathogènes qui auraient essayé de résister au sel. Et donc on a un aliment qui, une fois de plus, se conserve dans son bocal pendant des mois, voire des années, mais qui du coup est un peu salé. 3%, c'est pas rien, donc on peut éventuellement voilà, s'en servir en complément hein, d'autres aliments mélangés avec ou éventuellement rincer un peu, mais on peut perdre une partie des probiotiques, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais où on peut essayer de diminuer le sel. Hein. Il y en a qui font des lactofermentations à 1%, mais plus on diminue, plus on joue un peu avec le feu d'une certaine manière, parce que on peut plus facilement déclencher des pourritures si on diminue la quantité de sel. Donc c'est tout un jeu de subtilité entre résultat final et côté sanitaire.
L'exemple typique, c'est la choucroute,
par exemple.
Voilà, oui. C'est-à-dire du chou lacto-fermenté à l'alsacienne.
Voilà.
Donc à la fois du sel, mais également cette acidité lactique qui se développe et qui rend le chou justement un peu acidulé.
Oui, et qui se développe parce que c'est les bactéries qui fabriquent ça. Et la bonne nouvelle, c'est que les bactéries, elles fabriquent pas que de l'acide, elles fabriquent beaucoup de vitamines aussi. Et ce qui est amusant dans cette histoire-là, c'est que finalement le chou qu'on a laissé pendant des mois et des mois dans sa jarre, il est plus riche en vitamines qu'un chou frais. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce que c'est les bactéries qui ont fait le boulot, qu'on fabrique. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est important quand on fait sa choucroute, mais en général quand on fait une lactofermentation, d'ailleurs il ne faut pas laver les légumes qu'on va utiliser parce qu'on veut leur flore naturelle qui contient des acides lactiques. Si on lave, ça va avoir du mal à partir en fermentation. Donc c'est un peu là aussi contre-intuitif. C'est-à-dire, pour une fois, en termes d'hygiène, justement, il ne faut pas trop laver. Quoi.
Oh dis donc, j'ai trouvé la bouffe trop salée personnellement.
Ouais.
La cuisinière est amoureuse, comme on dit.
Ah, mais qu'est-ce que je bois? Moi, j'arrête pas. Je suis desséchée.
Charlotte, est-ce que je peux te poser une question?
Oui.
Il faut que tu me répondes très sincèrement. Tu me promets?
Ah oui, je te promets, sincèrement.
Est-ce que c'était vraiment trop salé?
Alors, c'est quel film où l'on entend Jean-Pierre Darroussin, Jean-Pierre Bacri, Zabou Bretman et Agnès Jaoui? L'exquis, Cuisine et dépendance, 1993. Christophe Lavelle, certains mangeurs ont tendance à forcer sur la salière, voire carrément à augmenter dangereusement les doses. En matière de sel, est-ce qu'on peut parler d'addiction ?
Faut se méfier, addiction, c'est un mot assez clinique. On faudrait plus parler d'habitude. Effectivement, on peut s'habituer à force de manger salé. C'est-à-dire que c'est pas un besoin physiologique qui correspondrait à l'équivalent d'une addiction, mais c'est plus une habitude, un plaisir qu'on a à toujours manger très salé. On s'habitue à manger très salé. Et le fait est que, grosso modo, les chiffres nous disent qu'on est environ à 10 grammes par personne par jour de consommation de sel, alors qu'on devrait être plutôt à 5 grammes, deux fois moins, et que si on était à 2 grammes, d'un point de vue physiologique, on s'en sortirait très bien. Donc on est clairement très au-dessus. Pour des raisons qu'on vient d'évoquer, c'est parce qu'effectivement c'est facile de trop saler parce que c'est flatteur. Donc, alors bien sûr, les plats industriels sont souvent trop salés, même si maintenant la prise de conscience se fait petit à petit. Mais il n'y a pas que les industriels. Très souvent, quand il y a des salières sur la table, il y a encore beaucoup de gens qui ont le réflexe d'utiliser la salière avant de commencer à manger parce que voilà, on a envie. On sait que ça va plutôt être plus flatteur que gênant. Or, il y a un vrai problème de santé publique qui touche le monde entier. Aujourd'hui, on a justement, contrairement à nos ancêtres préhistoriques qui devaient se battre pour essayer de trouver du sel dans l'alimentation, ce qui n'était pas évident d'en trouver. Et donc, du coup, on a tendance à, aujourd'hui qu'on a facilement accès à ce sel, on a tendance à en abuser. Et ça fait des phénomènes, notamment, ça favorise pas mal de risques cardiovasculaires, ça fait de l'hypertension,
oui.
Ça fait des insuffisances rénales. Et le fait est qu'il y a beaucoup plus de risques d'en prendre trop que pas assez.
Il paraît, Christophe Lavelle, que le sel en cuisine fait l'objet d'un programme scientifique très ambitieux en France.
Oui, il y a ce qu'on appelle des gros projets ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui finance des projets à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, il y a un gros projet piloté par le Centre des sciences du goût, de l'alimentation de l'INRA de Dijon, et puis l'AgroParisTech et l'ISTIA aussi à Toulouse, et pas mal de labos qui sont impliqués, d'instituts impliqués, dont l'enjeu est justement de mieux comprendre la physiologie du goût salé, les habitudes des consommateurs et comment, in fine, changer ses habitudes pour saler moins à l'avenir. Ça nous invite à réfléchir sur notre utilisation de cet ingrédient d'une banalité absolue, mais justement qu'on pourrait peut-être regarder de manière un peu plus précieuse, je dirais.
On retrouvera notre expert scientifique Christophe Lavelle au cours de nos prochains épisodes. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dédiés à la gastronomie et le dernier s'intitule « Molécules, la science dans l'assiette » aux éditions Les Ateliers d'Argol. Nos infos pratiques, nos recettes et les podcasts des épisodes de la série sont à retrouver sur franceinter.fr à la page Saveurs Savantes. Saveurs Savantes est réalisé par Clément Baudet. Nadia Chougui et Anna Maréchal m'ont aidé à la préparer. Choix des textes littéraires Stéphane Sellier, prise de son Stéphane Touvenin, Stéphane Beaufils et Florian Dorimini. Programmation musicale Djoubaka. Saveurs Savantes, c'est tous les samedis de l'été à 11h sur France Inter. Samedi prochain, épisode 5.
Umami.
On se retrouve demain dimanche à 11h pour les meilleurs moments dont on va déguster. Au menu, un aliment dans le droit chemin de cet épisode salé, les algues. C'est l'été, salivez sur France Inter.